Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, le blues de l'expert, Pierre Liotagui. Pierre Liotagui, est-ce que vous avez le blues ?
Je peux l'avoir pour un tas de raisons, mais bah, parfois ça, c'est clair. C'est difficile parfois de distinguer le blues général, on va dire, du blues particulier. Il arrive qu'on ait le blues dans l'ordre général, alors qu'on devrait un peu regarder ce qui le provoque en soi, quoi. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est ça le problème. Donc il y a des allers-retours, et quelquefois le blues particulier, il vient de ce qui peut induire par ailleurs le blues d'ordre général.
Mais ce blues, c'est un blues qui est lié tout de même avec ce à quoi vous avez consacré une bonne partie de votre vie, les plantes ?
En fait, ça se produit plutôt maintenant. Parce que, c'est vrai, il y a une forme de découragement qui se ressent, mais qui est récent, c'est pas une histoire ancienne. J'ai plutôt été optimiste, et je le suis moins. Bon, ça tient à pas mal de choses, en fait, relativement simples. D'abord, le niveau de mensonge général dans lequel on se trouve, qui est qu'on n'a jamais été aussi informé et on n'a jamais autant, comment dire, dissimulé le fait qu'on était informé. Donc ça m'inquiète, parce que on a une société qui... Bon, en plus, on est dans un monde surexpliqué. Et qui n'a jamais été autant expliqué. Il est, à mon avis, surexpliqué, en particulier par la science. Et puis la surexplication, étrangement, n'induit pas du tout la compréhension, et encore moins l'apaisement.
Peut-être aussi encore moins l'action.
Encore moins l'action, puisque quand on a énormément de repères proposés à la compréhension, on a d'autant plus de mal à comprendre. Donc ça m'inquiète, parce que je me rends compte que En fait, la science devrait produire... Bon, il y a toujours une part d'inertie, c'est pas forcément une réaction immédiate, mais la science devrait produire une meilleure compréhension des événements, des rapports entre les causes et les effets. Or, elle va tellement vite qu'on ne prend plus en compte que les effets, et puis on se détache des causes, parce que les causes sont plus complexes. Donc on est dans le ressenti des effets et beaucoup moins dans la compréhension des causes. En plus, c'est pas que je dénie toute valeur, loin de là, la recherche scientifique, mais on a longtemps été dans un monde où la compréhension de la nature, disons la nature comme cosmos, comme ensemble du monde, était partagée, aussi bien par le savant que par le non-savant. Et aujourd'hui, il y a des clivages très nets, donc il n'y a plus la même image du monde. On se rattrape à ce que la science laisse comme miette derrière elle, et qui autrefois tenait à ce qu'on... Notamment, il y avait un lien qui était fait, par exemple, par la religion. La science en tient lieu maintenant, parce que la science donne une... Quand on parle du monde maintenant perçu par la science. Même si on n'est pas savant, on est dans le... Comment dire, dans la... On a reçu quelque part une influence, par exemple, je sais pas, du Big Bang, voilà, des choses comme ça, qui tient lieu de Genèse, enfin bon, ça s'est substitué, mais pour autant, on n'en est pas dans une unicité d'appréhension des choses. Donc il y a un clivage de plus en plus fort, et ça fait un monde fragmenté, où c'est de plus en plus difficile de s'accorder sur qu'est-ce qu'on veut de ce monde-là, quoi. D'autant plus que d'un côté, l'usage, on va dire, dans l'ordre matériel du monde implique qu'on l'utilise le plus aveuglément possible.
Comment ça ?
Les gens, les dirigeants, les décideurs, etc., sont les gens très informés. Ils savent exactement ce qui se passe. Or, ils font comme s'ils ne le savaient pas. Et leur discours, c'est... D'ailleurs, je les plains, parce qu'à ce niveau-là de mensonge, on ne doit pas être très très bien quand même. Comment arrive-t-on à dormir, quoi ? Ils savent ce qui se passe, ils savent les risques. Et ils tiennent le discours classique de « ça va durer toujours ». Avec quelques petites réparations de façade. Donc ça vraiment, ça m'inquiète, parce que comme la distance est de plus en plus grande entre ce qu'on demande au monde et ce qu'il est capable de donner, et que c'est un fossé exponentiel qui se creuse, ce qui se produit comme discours de substitution devant cette évidence-là est de plus en plus construit, alors que à côté de ça, il n'y a pas de construction de solution. C'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui, d'une certaine manière, me donnerait ce fameux blues.
Vous avez dit beaucoup de choses déjà, Pierre Liotagui, et j'essaye de dégager une image. Vous avez parlé de cette connaissance partagée autrefois sur les plantes qui a disparu, et vous disiez, aujourd'hui on n'a plus que les miettes du discours de la science, et vous avez parlé de la science comme d'un discours monopolistique, en quelque sorte. Vous dites c'est le seul discours. Entre-temps, la religion a disparu, les politiques se taisent, mais tout de même, si on remonte dans le temps, entre les années 60, lorsque vous avez publié votre premier livre, le livre des bonnes herbes, qui était déjà une sorte de pied de nez à ce qu'on appelait à l'époque les mauvaises herbes, qu'on continue d'ailleurs à appeler les mauvaises herbes. Et aujourd'hui, est-ce que véritablement on a continué à avoir cette sorte de lente dégringolade, déchéance, ou rapide d'ailleurs, des savoirs sociaux sur les plantes, ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas eu tout de même une sorte de regain ?
Alors ça soulève d'autres problèmes, parce que c'est pas du tout que je veuille valoriser, survaloriser le savoir de tradition orale. Il était extrêmement restreint, même s'il était bien diffusé et qu'il y avait un partage, on va dire, d'appréhension des choses entre le savant et le non-savant. Bon, les sociétés anciennes ont fonctionné sur le mode de l'empirisme. C'est-à-dire, l'empirisme, c'est le produit de l'expérience qui n'est pas théorisé. Et puis quand la science se pointe, elle essaie de théoriser, et puis elle théorise de plus en plus, et en même temps, elle s'éloigne de la nature. Et ça, c'est bien, parce qu'on ne pouvait pas penser le monde du dedans. Donc je ne suis pas du tout un nostalgique des modes anciens de savoir. Je suis nostalgique d'une certaine communauté de perception, mais qui de toute façon devait se défaire. Parce que pour qu'il y ait questionnement sur la nature, il fallait qu'on sorte de la nature. La nature ne peut pas être comprise du dedans. Quand on est du dedans, la nature, c'est que des croyances. Bon, plein de gens ont écrit des choses très claires là-dessus.
Reste à trouver la bonne distance.
Alors, le problème, c'est que c'est très difficile de trouver la distance. Parce que la science est en vertige d'auto-justification, et puis elle se justifie en découvrant de nouvelles choses. Elle ne cesse de devoir donner des raisons de sa présence dans la société. Et en même temps, elle trouve tellement de raisons de se poursuivre, elle, que ça finit par échapper aux gens qui pourraient, d'une certaine manière, en être les bénéficiaires. Donc voilà, il y a le clivage, et maintenant, il fallait se mettre à distance, mais maintenant la distance est vertigineuse. Donc ça, c'est un fait. Je dois le préciser très clairement, je ne suis pas du tout un nostalgique de la tradition. Pas du tout. Si ce n'est que, alors, les sociétés traditionnelles, bon, parlons de ce qui se passe ici, on ne va parler ni de l'Asie, ni de l'Afrique. Les sociétés traditionnelles ont vécu donc du dedans, ce que nous, maintenant, on appelle la nature, qui n'est pas connu comme nature, parce qu'on vivait du dedans. Et les gens, ils avaient comme nécessité majeure de assurer leur survie. Et donc, ils ont transmis, ils ont perfectionné des connaissances très partielles, fragmentaires, qui leur permettaient tout simplement de passer d'une génération à l'autre, avec beaucoup de casse. Mais bon, il y avait un savoir plus ou moins partagé, parce que tous les gens n'avaient pas la même connaissance des choses. La connaissance était diffuse. Enfin, en tout cas, dans nos sociétés, nous, occidentales, ici, la connaissance était diffuse. Je parle de la connaissance de tradition orale. Les uns savaient des choses, d'autres ne savaient rien. Ceux qui ne savaient rien pouvaient éventuellement s'adresser à ceux dont on disait qu'ils savaient des choses. Donc il y avait une sorte comme ça de constellation de petits savoirs qui, quand on les considère de loin, peuvent apparaître comme un grand savoir. Et c'est un grand savoir, mais pas constitué un système. C'est juste des façons qu'on a de s'ajuster au monde par tout un tas de petites choses. Bon, ça c'est perdu. Alors, comme on a perdu en même temps ce type, on va dire, d'une part de rapport-là immédiat, avec l'usage des choses, et puis aussi le partage de personne à personne, et qu'on a perdu la religion, c'est pas pour rien qu'elle a une fonction de rassurer. En tout cas, on a perdu sous la forme ancienne des religions, vous voyez, je dis déjà ancienne, on a perdu le souci eschatologique, on l'a perdu en principe, alors que dans le fond, il est toujours évidemment présent. Donc, qu'est-ce qui peut remplacer ça? D'une part, la science, on sait ce qu'elle a produit, donc on lui fait pas vraiment confiance. On sait qu'elle donne on va dire, des modes d'emploi, des explications générales, comme notamment, par exemple, la cosmologie actuelle s'est substituée à l'histoire des Genèses. Parce qu'on peut plus croire, à part bon, les fondamentalistes religieux, qu'ils soient d'Orient ou d'Occident, pensent qu'il y a eu une création de 6 jours et un repos de 7e. Bon, ça, on peut plus le croire. On peut plus le croire, à moins d'être franchement débile, quoi. On peut plus croire ça. Et en même temps, ne pas le croire ne nous donne pas un apaisement, parce que ça ne résout pas la question de la genèse, des genèses. Donc les sciences produisent des voies de contournement, des solutions, comme par exemple les cosmologies actuelles. À un moment donné, le Big Bang est déjà plus ou moins mis en question, avec le problème de l'annulation du temps, de l'espace, etc., qui là, à ce moment-là, deviennent des concepts inaccessibles à la plupart des gens. Et donc on est dans pas forcément plus inaccessible que ne l'étaient, comment dire, les mythologies anciennes, dans leur essence. Mais le problème, c'est que les explications actuelles du monde ne produisent pas de salut, ni d'espérance. C'est-à-dire que on explique les choses dans ce qu'elles sont maintenant, mais ça ne dit pas ce que peut, à partir de ces choses-là, nous, on peut devenir, ce qu'on peut devenir. Et donc, on est dans cette espèce d'hésitation où on n'a plus vraiment, on ne peut plus vraiment se rassurer en arrière, et surtout, on n'a pas de possibilité d'imaginer un futur pour l'esprit, je veux dire, c'est-à-dire pour ce qu'on peut considérer, même les matérialistes ont quand même une pensée, ils n'ont pas très envie qu'elle disparaisse. Donc, il faut toujours se trouver des repères eschatologiques, et on les a pas. Et donc, on est dans un monde dépourvu de repères, absolument. Donc, d'un côté, se rassurer un petit peu à les explications du monde savantes, mais le problème, c'est qu'ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a tellement d'explications que ça cesse complètement d'être rassurant. C'est au contraire une espèce de pulvérisation de la réponse. Et puis, à côté de ça, on va revoir du côté de la nature. Parce que la nature, c'était celle qui était là avant les explications, et qui était simplement l'habit, le vêtement des dieux, ou des forces, ou des énergies. Énergie, qui est un mot, comme vous savez, qui est très, très à la mode. Et pourquoi il est à la mode? C'est parce que, d'un côté, il y a l'énergie nucléaire, il y a l'énergie, je sais pas quoi, des accélérateurs de particules, qui ne s'est pas du tout substitué aux énergies cosmiques divines. Donc il faut qu'on la trouve quelque part. Et puis en plus, ce qui est important, c'est que nos sociétés sont dépourvues de repères transcendants. Et il faut absolument qu'ils en trouvent. Donc d'un côté, ça peut expliquer le regard des religieux.
Voilà donc la nature qui réapparaît. Pierre Liotaghi, j'étais un peu étonnée en vous écoutant, puisque tout de même je suis venue vous voir, est-ce qualité d'expert des plantes, des arbres, du monde végétal, et vous voilà à nous parler d'eschatologie, de religion. Quel lien est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y en a un?
Bon, déjà, l'expert est un mot suspect, hein. J'aime pas trop, parce que déléguer comme ça tout un pan de l'appréhension du monde à des personnes qui sont censées répondre mieux que les autres, je suis pas sûr d'adhérer profondément à ça. Mais bon, admettons que je puisse délivrer une forme d'expertise, toute détournée qu'elle soit. Donc je me suis intéressé effectivement au rapport entre les sociétés et le monde végétal, la façon dont les gens ont perçu le monde végétal, l'ont nommé, etc., l'ont mis en œuvre. Bon, d'une certaine façon, la tentative de se faire des alliés du côté des plantes, ce serait peut-être plus conscient aujourd'hui. Pendant longtemps, le végétal, c'est une chose, plus qu'un être. Et je sais pas, sur les 250 ou 260 frappes de La Fontaine, il y en a une qui fait allusion au végétal, c'est le chêne et le roseau. Toutes les autres font intervenir l'animal. Même si La Fontaine, à un moment donné, il dit, je ne sais pas où, que les plantes, elles respirent, parce qu'à l'époque, quelqu'un a montré la respiration des plantes, donc il le dit. Les plantes, c'est quand même des êtres vivants. Mais pendant longtemps, c'était simplement le monde est dans nos sociétés. Le monde, je parle toujours de nos sociétés. Le monde, c'était un donné, et même un reçu, c'est-à-dire quelque chose qui avait été reçu de la création, et qu'on pouvait exploiter à loisir. Il y a toujours l'histoire de la nouvelle alliance de la Genèse après le déluge où on dit soyez les froids, tout ce qui vit sur la terre et dans les eaux, etc. Bon, puis là-dedans, il y a une petite part pour le végétal qui dit je te donne l'herbe en plus, ou un truc comme ça, l'herbe. La traduction de Chouraki, c'est il y a l'herbe. Tu peux toujours te démerder avec l'herbe si les animaux suffisent pas. Bon, je pense que maintenant, d'une part du fait des sciences naturelles, depuis la Renaissance sans doute, et puis du fait aussi de l'inquiétude dont je parlais tout à l'heure, sur qu'est-ce que je fais dans le monde, qu'est-ce que c'est que le monde, comme voilà, il y a un souci du végétal comme être vivant, qui n'existait pas auparavant. Et ça peut aller jusqu'à tout un tas de formes délirantes, comme par exemple, je sais pas, le véganisme, hein, qui ne veut en rien utiliser l'animal, sous aucune forme. Même, on ne se fait même pas tirer par un cheval dans charrette. Et puis, à ce moment-là, on accorde au végétal une place prépondérante dans tout ce qui nous concerne, comme dans notre survie. Et puis, pour finir, on s'interroge aussi, mais ce qu'on demande au végétal, est-ce que ce n'est pas un excès d'une violence qu'on fait à la nature? Parce que si jamais la carotte souffre quand je la râpe, qu'est-ce qui va me rester? Donc, il s'est renversé. Quelque chose se renverse de nos jours. Même si ça, c'est complètement marginal dans notre société. Mais il y a une attention, alors, sans doute d'abord à la nature, depuis donc longtemps, et puis qui se construit un peu comme inquiétude, et puis après, s'ajoute à ça les questions d'environnement. Mais il y a plus de gens, à mon avis, de nos jours, qui regardent les plantes avec, on va dire, émotion et souci de leur devenir que ce n'était le cas dans le passé. Donc, d'une certaine manière, les choses ne se sont pas défaites complètement. Les sociétés pastorales méditerranéennes ont détruit complètement le bassin méditerranéen, tout en permettant, à travers la destruction, l'apparition de milieux, comme les milieux ouverts méditerranéens, où une flore s'est, comment dire, propagée, développée, qui est de nos jours considérée comme les milieux les plus intéressants dans la région méditerranéenne. Et là-dedans, il est apparu plein de plantes qui avaient des usages que la société pastorale a, d'une certaine manière, suscité par son attention au milieu. Bon, et ça, c'est en train de disparaître du fait, justement, que les modes d'exploitation des milieux s'éteignent. Mais le souci de la conservation du monde vivant, c'est un souci moderne, complètement. Donc on est là-dedans, et on n'a jamais autant parlé de nature, alors qu'en même temps, on ne l'a jamais autant, en fait, saccagé. En même temps, il y a tout un tas de phénomènes qui nous rassurent. Les forêts sont en extension en Europe. Dans le 04, ici, dans le département, on est passé au-dessus de 50% de la surface générale boisée. Dans le 04, le Var est boisé à 70%, du fait de l'extension des milieux boisés sur l'ancien espace agricole et pastoral.
Dans le même temps, l'entreprise E.ON s'installe à Gardanne et va venir prendre le bois des forêts à 400 km à la ronde.
Absolument, les 850 000 tonnes par an de E.ON est un prélèvement aberrant. Mais eh bien alors, on est là en plus en plein dans le paradoxe de l'usage actuel de ce qu'on appelle la nature. Et dans la démarche de E.ON, il y a un prétexte d'utilisation d'une ressource renouvelable. C'est-à-dire que le bois est présenté comme ressource renouvelable, ça suffit. Et on ne s'interroge pas sur comment il est renouvelable, dans quelles conditions, etc. Bon, c'est toujours cette histoire du mensonge dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on prend un petit morceau d'une réalité et on le développe pour soi. Enfin, ce qu'il y a, c'est que les sociétés, enfin, appelons ça l'ancienne société, c'est-à-dire la société rurale et en l'occurrence moins urbaine, ancienne, survit parce qu'elle connaît, son milieu. Elle y trouve de tous les recours alimentaires, en cas de disette, médicinaux, les matériaux pour l'artisanat, des choses, voilà. Bon, c'est obligé. Bon, de nos jours, d'une certaine façon, c'est relativement analogue, mais les ponctions ne se font plus dans le territoire immédiat. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un remède qui vient de la médecine ayurvédique et il a été cueilli dans l'Himalaya. Et on ne s'interroge pas sur la dévastation causée par l'extension mondiale des médecines ayurvédiques et chinoises. Dévastations qui sont absolument invraisemblables. Donc, on a déporté au loin les inquiétudes. On en a d'autres. Un bon nombre d'inquiétudes n'apparaissent pas au premier rang, au premier niveau, parce que les raisons qui feraient qu'on les développe se sont reportées très loin. Bon, c'est vrai, de l'esclavage, des choses comme ça, du travail des enfants, voilà, toutes ces choses-là sont loin. Et on en est, ici, les bénéficiaires, relativement tranquilles, en fait. Donc, il n'y a pas d'usage de survie de la flore, ici, en Europe. On pourrait, à la limite, se passer complètement de ce que produisent non seulement les milieux naturels, mais même les milieux agricoles. On pourrait importer. Les subventions qu'on donne aux agriculteurs en France, qui sont des électeurs et puis qui en même temps peignent le paysage, ils pourraient servir à acheter du blé, du maïs, des poulets, des cochons en Chine ou en Amérique du Sud. C'est pas nécessaire de le faire ici. On pourrait acheter tout à l'extérieur. Et donc, il y a une sorte de plus. Dans la façon actuelle dont on voit la nature, c'est un peu la même façon dont on voit la production artistique. Et l'art a été longtemps une nécessité transcendantale. Et de nos jours, c'est un ajout qu'on fait à la vie. Qui est
un supplément d'âme.
Un supplément d'âme, absolument. Et donc, on ne peut pas se passer de l'art, parce que bon, l'art, c'est aussi quelque chose qui fait que c'est une forme de compensation à des histoires de transcendance, de spiritualité. Bon, bref, on va voir un concert, c'est plus facile d'aller à un concert, et peut-être plus intéressant et plus enrichissant que d'aller à la messe, par exemple. Mais tout ça se tient dans le même registre, sur le fond. Et donc, le rapport qu'on a à la nature de nos jours, c'est quand même un peu un rapport de confort. On va ramasser des légumes sauvages, on va acheter un panier, on boit une tisane de plantes cueillies en altitude, qui sont meilleures que les plantes de plaine, comme chacun sait. Mais ça fait partie de ce que nous permet une société qui a dépassé l'immédiatement nécessaire pour aller vers ce que j'appelle, moi, des solutions, enfin des replis sur un usage de confort du monde.
Et vous pensez, Pierre Liotagui, que dans cette société que vous décrivez, le souci du végétal n'est pas autre chose que le souci d'avoir quelque chose de joli à regarder par la fenêtre?
Non, alors je ne vais pas jusqu'à dire ça. En plus, les histoires d'ordre esthétique, bon, même si on vend, je pense que les champs de lavande rapportent plus à l'économie au provençal que les céréales. Mais non, c'est pas seulement dans l'ordre esthétique. En plus, je crois vraiment que les gens, ça, je parle dans l'ordre général, dans ce qu'on voudrait que l'on fasse. Mais les gens qui font de la bio, ils font pas de la bio. Enfin, pour ce qui me concerne et d'autres que je connais. La bio, c'est pas d'être plus vrai en mangeant des choses plus pures, ce qui est quand même un discours prégnant. Hein. Il y a dans la bio un taux important de gens qui ou produisent ou consomment parce que c'est meilleur pour le devenir de la Terre. Et qu'à ce moment-là, ils sont soucieux du monde. C'est-à-dire ils sont pas simplement dans une espèce d'usage, on va dire, oui, de esthétique, de confort du monde. Ils ont compris que le monde ne peut se poursuivre que s'il y a une véritable attention et qu'on cesse de comment dire, une forme de un usage effréné. Voilà, il y a comment dire, une ce qu'on sait de nos jours des rapports à ce qu'on appelle, je dis toujours ce qu'on appelle la nature, parce que la nature c'est un concept qui a évolué avec les siècles, qui de nos jours est un fourre-tout invraisemblable. Mais donc, ce qu'on attend aujourd'hui de la nature, c'est beaucoup du plaisir, de l'émotion, etc. Et puis, petit à petit, on se rend compte que la nature, c'est aussi ce qui permet tout simplement la survie de la Terre. Et pour ça, ça implique ce qui est perçu d'un côté comme des sacrifices absurdes, puisque ça met en question les acquis qu'on a de la société de consommation. Et donc ça, il faut le perpétuer à tout prix, d'où l'idée du développement durable, par exemple. Le développement durable, en soi, c'est un télescopage de termes effrayants. Parce que qui dit développement sous-entend restez tranquille, on ne va pas vous priver de ce qui vous permet de jouir actuellement de ce que vous avez acquis si durement. Or, le problème n'est pas là. Le problème, c'est c'est un discours qui n'est pas propre du tout et qui a été tenu des centaines de fois. C'est-à-dire le monde est fini. Il a ses exigences dans la finitude où il a ses exigences qui lui permettent de survivre. Et du fait des rapports qu'on a avec lui, on va le permettre ou non. Et c'est en ce sens que je me dis que les politiques qui connaissent très bien cette problématique-là, un jour, ce seront des gens maudits, on les maudira. Les gens de ceux qui nous dirigent, qu'ils soient à l'ouest, à l'est, au sud ou au nord, seront maudits parce qu'ils savaient et ils n'ont pas fait. Et à ce moment-là, peut-être qu'on sera dans une économie forcée avec les tyrannies qui ont été souvent évoquées par les gens qui ont pensé l'écologie comme régime totalitaire. Parce que quand il faudra économiser de force, on ne sera plus dans des démocraties. Donc pour perpétuer la démocratie, il faut considérer que le monde naturel, c'est-à-dire le monde non humain, a droit à sa propre vie. Qu'on ne lui demande pas au-delà de ce qu'il est capable de donner et qu'il se perpétue avec nous dedans. C'est pas pour autant que je prétende que le poireau ou le faucon pèlerin ait autant d'importance qu'un être humain. C'est pas ça la question. Je suis pas, comment dire, la deep ecology me paraît extrêmement suspecte aussi. Mais je pense qu'on a acquis la notion de la totalité du monde. On ne peut pas, de nos jours, penser hors de ça.
Mais tout de même, plus précisément, de quoi parlez-vous, Pierre Liotagui, puisque finalement, le seul élément que vous nous donnez qui concerne directement le monde végétal, c'est que la forêt ne s'est jamais aussi bien portée, qu'elle est en pleine croissance. Et là, vous êtes en train de parler d'un saccage des ressources. Si vous avez tout de même parlé, effectivement, de ces plantes qu'on va chercher dans l'Himalaya ou au Tibet et dont on se moque bien de savoir ou non qu'elles sont en train d'être éradiquées totalement. Mais dans ce que vous dites, et on le sait bien tous, il y a quand même en filigrane cette atteinte très grave portée à la santé du monde végétal. Je ne veux pas dire une atteinte mortelle, mais enfin il y a tout de même, on le sait, des problèmes graves. Et j'aimerais tout de même que vous nous en parliez, parce que vous avez un discours qui n'est pas du tout le discours attendu, doloriste, habituel, mais qui, en même temps, donne à voir que la situation est tout de même assez inquiétante.
Il me semble que le végétal m'a moins intéressé quand je me suis rendu compte, ça fait quand même déjà un bout de temps, mais quand je me suis plutôt questionné de ce bord-là, qu'il n'y avait pas de vérité dans la nature, que la nature n'était pas détentrice de vérité.
Et que, vous étiez à la recherche de la vérité ?
Je ne suis pas à la recherche de la vérité, mais j'ai tellement entendu qu'on allait la trouver là, qu'à un moment donné, peut-être que je l'ai cherchée. Mais ce qui m'intéresse, pour ma part, dans le travail que je peux encore faire autour de ces questions, c'est que il faut échanger mes repères. Enfin, mes repères ont changé, plutôt. La nature n'est pas détentrice de vérité. C'est nous qui la construisons sous les différentes formes possibles et qui construisent une manière d'être au monde la moins destructrice possible et dans les rapports entre les humains et dans le rapport qu'on a avec la Terre. Donc, du coup, la plante comme valeur éthique a cessé de m'intéresser. Ça ne veut pas dire par là qu'elle ne m'intéresse pas comme participante évidemment majeure à l'équilibre des écosystèmes. Et puis, il est vrai, alors ça c'est une autre histoire, il y a un déficit extraordinaire maintenant au niveau des espèces, animales et végétales. Bon, ça, on est aussi très bien informé là-dessus. Quantité de plantes disparaissent, peut-être davantage dans les zones tropicales équatoriales que chez nous. Parce que chez nous, il y a justement cette histoire, encore une fois, je me répète, mais qui est très importante dans nos cultures, c'est le plus que donne l'attention et le fait de se tranquilliser à travers ça. C'est-à-dire qu'on est soucieux du monde, comme on est soucieux d'un enfant. Puis il y a aussi le fait qu'on a peut-être fait notre crise d'adolescence. On a joué en partie notre Oedipe avec la nature. Et puis maintenant, on peut tenter de reprendre des contacts avec la mère naturelle. Il y a plein de sociétés qui l'ont pas fait et qui sont encore dans le saccage et dans la demande qui n'appelle pas de reconnaissance. Ce que fait le Brésil avec les forêts tropicales, même s'il y a une petite amélioration maintenant, et vu d'ici, c'est consternant. Parce que d'ici, on a appris, avec les sciences naturelles, avec tout un tas de choses dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette diffusion de l'idée que la nature valait comme, à la limite, comme entité morale. Donc on est soucieux de cette nature-là.
Mais ce qu'on fait tout de même, Pierre Liotagui, avec les paysages, avec cette vision presque carcérale de la façon dont on doit conduire des pommiers. Par exemple, en venant chez vous, on a traversé des vergers, on a le sentiment que ces pommiers sont en prison. Ils sont taillés pour simplement pouvoir s'accrocher à des sortes de barbelés. Ils ont absolument pas l'amplitude de leurs branches. Et que dire des haies de prunus ou des haies de forsythia qui ornent absolument toutes les villes? Et que dire de tous ces arbres qui sont arrachés? Que dire des haies du bocage qui sont arrachées? Que dire de toute la végétation inutile, et je mets évidemment des guillemets, qui est détruite pour laisser la place à de la monoculture de tulipes ou de maïs ou de je ne sais quoi?
Oui, alors ça, c'est toujours c'est les mêmes questions. C'est pas moi qui la pose seule. Quel monde on veut? Qu'est-ce qu'on veut du monde? La production, c'est des questions c'est pas forcément la peine de commenter des lieux communs. Mais vous savez très bien, la consommation de la viande implique de cultiver du maïs, par exemple. Donc pour faire du maïs, il faut de l'eau, etc. Il faut faire des retenues d'eau, comme à Sivens. Bon, donc tout ça, ce sont des séquences de destruction qu'on voit à certains moments. Mais ce sont des événements qui se situent à plusieurs niveaux d'atteinte. Là-dedans, il y a une atteinte au végétal dans sa diversité. Bon, les vergers, il y a très longtemps qu'on en fait. On a appris à les cultiver comme on fait maintenant. Et ce que la chimie a permis d'un côté pour les engrais, elle le permet aussi pour la lutte contre les parasites. Donc on ne produirait pas les pommes de la Durance ou les pêches de la vallée du Rhône sans la chimie. Ce serait évidemment impossible sous cette forme-là. Donc il y a des continuités, des systèmes en boucle d'explications dans lesquels on peut entrer à un moment donné et se dire mais pourquoi ça? Pourquoi effectivement les pommiers sont comme des prisonniers enchaînés? À la limite, ils illustrent aussi ce que nous sommes, c'est-à-dire on est enchaîné à des désirs, on est enchaîné à des demandes, à des obéissances. Donc c'est pareil, on a la flore de ce qu'on est, de ce que nous sommes, évidemment. Après, l'imaginaire qu'on a de la nature fait que ça, c'est acceptable dans nos sociétés à nous, parce que la nature supposée vraie est déportée ailleurs. C'est-à-dire, d'une certaine façon, personne ne va aller faire des randonnées dans les vergers de la Durance. Ça, je crois pas. Dit dans les élevages de cochons en Bretagne. On pourrait faire des randonnées, la route des élevages de cochons, par exemple, pourquoi pas. Et par contre, on va faire la route des lavandes, de la lavande, ou les sentiers de la lavande, où il y a autant de désherbants que dans le maïs. Mais la lavande, c'est joli. Donc, il y a des modes d'appréhension de plusieurs niveaux des choses. Donc, encore une fois, on a le monde dans le végétal, nous tend un miroir, etc. Nous, on tend un miroir au végétal. Bon, bref, tout ça, c'est des trucs, en plus, des banalités de base. Et puis, comme la nature est déportée dans les parcs ont été explicitement faits au départ, constitués des lieux de sauvegarde des modes anciens d'évolution, d'abord du paysage rural, puisque les premiers parcs, notamment le parc d'Armorique, qui était un des premiers parcs en France, était un parc qui conservait du bocage. Mais autour, on a coupé 1 500 000 km de talus. Parce que la pensée de la complexité du monde n'avait pas du tout pénétré les actes. Et c'est encore le cas.
Oui, j'allais vous dire, ça continue, puisqu'aujourd'hui, on plante les oliviers sur les ronds-points.
Ah, ça, c'est autre chose. C'est pas dans le même registre. Parce que d'un côté, il y a les vergers d'oliviers qui peuvent être, comme dans certaines régions de l'Acro, par exemple, à l'arrosage, traités, désherbés, cueillis à la machine, etc. Bon, c'est pas les joyeuses cueillettes du 19e siècle avec des pipaniers, des gens qui rient dans les cimes. C'est vraiment pas le cas. Et alors ça, c'est une chose. Mais l'olivier de rond-point, c'est encore une autre affaire. C'est que ça, c'est l'esthétisation de la plante. Et qui est devenu très important dans nos sociétés, et il fut, encore une fois, on ne peut pas supporter, alors ça, on dérive, mais comme vous voulez que je parle de plantes, j'en parle.
Merci.
La plante n'a pas été importante, même la plante d'ornement. La plante d'ornement a existé depuis très longtemps, mais souvent avec des fonctions quand même plus ou moins cultuelles. Les Latins faisaient vraiment une couronne votive au moment des cérémonies, etc. Autour de Rome, du temps de Pline au 1er siècle, il y avait une quantité de gens qui étaient maraîchers et qui produisaient des fleurs pour les couronnes. C'était une industrie. Voilà, mais le Moyen-Âge, la Renaissance, n'a pas beaucoup de fleurs d'ornement. Ça ne veut pas dire que les gens n'étaient pas attentifs à ce que nous, on appelle la beauté des fleurs. Mais ça n'avait pas l'importance du tout que ça a chez nous. Et d'abord, ça apparaît dans les classes aisées, qui se font des jardins, qui rassemblent autour d'eux. Mais il y a toujours cette idée aussi de comment on peut gérer les hommes, dominer les hommes, on domine les plantes, on fait des gazons, par exemple, on fait des parcs à la française, c'est des trucs qui ont été archi étudiés, et clairement. Mais nous, on a besoin, comme on est dans une société urbaine, et même si on vit ici, comme ici à la campagne, la culture dans laquelle on trempe, c'est une culture urbaine, les gens ne vont pas voir les plantes à 500 mètres de Fort-Calquier. Ils ont besoin qu'elles viennent jusqu'à eux, au cœur de la ville. D'où les bacs à fleurs, les suspensions. Encore qu'à Fort-Calquier, maintenant, ils ont supprimé les suspensions sur les poteaux. Mais il y a beaucoup de villes où les poteaux sont un nouvel écosystème pour les pélargoniums et les pétunias. Donc, et ça, c'est très intéressant aussi. C'est que à la limite, on est inquiet. On est inquiet quand le végétal n'est plus là. Ce qui fait que la ville ne peut plus se concevoir sans plantes, sans arbres, sans jardins. Les arbres en ville, c'est un truc moderne. Au 19e encore, Avignon, par exemple, et d'autres villes, plantaient des arbres, mais c'était des arbres d'usage. On les vendait aux enchères. Ils servaient au bois de feu, ils servaient à la taudellerie, à des choses comme ça. Et puis il y avait par-ci, par-là, un orme ou un vieux micocoulier qui servait à l'ombrage des vieux qui venaient discuter dessous. Mais il n'y avait pas du tout l'importance qu'on a donnée de nos jours à la plante, qui est la contradiction de la dureté de la vie urbaine. Si ce n'est que maintenant, avec la réalité virtuelle, tout ça va disparaître, puisque on fera des forêts tropicales dans un casque. Et donc, si vous voulez, le rapport actuel à la plante, c'est un rapport extrêmement trouble, puisque d'un côté, il y a cette, on va dire, j'aime pas le mot retour, mais c'est, disons, cette attention renouvelée à la plante comme usage, Par exemple, il y a, je pense, plus de gens maintenant connaissent les plantes alimentaires sauvages, à la limite, que dans les sociétés traditionnelles. Mais ce sont des urbains. Ils viennent faire des stages, ils récoltent un peu, ils mangent, ils ont peur de s'intoxiquer. Ils ont quelquefois la chiasse, ou alors ils chopent un ténia, et ça c'est beaucoup plus grave. Et à côté de ça, il y a la part esthétique extrêmement développée. Qu'est-ce que c'est qu'un appartement sans plantes? C'est impossible. Tous les gens ont des plantes d'appartement. Or, les plantes d'appartement, c'est les bourgeois qui avaient des vitres à la fin du 19e, qui commencent, ou des serres dans leur jardin, qui collectionnaient des plantes. Puis après, quand la production du verre est plus facile et moins coûteuse, le petit commerçant, il va aussi mettre une fougère ou un géranium derrière sa fenêtre. Donc c'est des histoires modernes. Et c'est associé, qu'on va dire, aussi au fait qu'en s'urbanisant, on coupe quelque chose qui n'était pas domé, qui est l'espèce de sécurité qu'on avait d'aller pique-niquer dans le parc le dimanche, par exemple. On ne va plus. Les gens allaient... autrefois, ils ne voyaient les plantes dans les villes que dans les parcs. Ils allaient au jardin public le dimanche avec leurs gosses, ils allaient faire du cerceau, manger des gaufres. Et maintenant, on demande que le jardin public vienne jusque dans la zone piétonne. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des fleurs partout. Et il faut qu'il y ait des fleurs partout et tout le temps. C'est-à-dire que quand, en octobre, les dernières fleurs sont mortes, vous avez vu depuis quelques années, les chrysanthèmes, plantes de cimetière par excellence en Europe, parce que c'est pas toujours le cas partout, fleurs de cimetière, maintenant, sont fleurs ornementales. C'est les dernières qu'on met dans les villes. Au Luxembourg, à Paris, en novembre, il y a partout des chrysanthèmes. En suspension, dans les vasques, etc. Et après, ce qui est intéressant, c'est un truc à leitmotiv, hein, je sais pas après voir que je le dis, mais quand il n'y a plus de fleurs dans la ville à cause de l'hiver, on allume les guirlandes de Noël. Et quand elles sont éteintes, on remet dans les bacs des pensées. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la fête tout le temps et que les fleurs, les plantes y contribuent. Donc il y a cet aspect-là, ludique. La fleur, c'est quelque chose de gai qui nous fait vivre. Alors tout ça, c'est des lieux communs. On vit plus quand on est proche du végétal. Le végétal, on a besoin du végétal.
Mais si ce n'est que dans vos propos, Pierre Liotagui, j'entends de plus en plus, peut-être, depuis le début de l'entretien, que cette attention portée aux plantes, c'est le signe d'une inquiétude grandissante. Vous avez commencé en disant que vous étiez un peu découragé. Ensuite, vous avez eu à certains moments quelque chose, une attitude qui s'apparentait à une sorte de détachement qui m'étonnait un peu. Et là, aujourd'hui, maintenant, je vois poindre l'inquiétude.
Tout à l'heure, je parlais des cochons bretons. Et quelquefois, je me dis que ce ne serait pas plus intéressant d'aller faire des randonnées dans les élevages de porcs en Bretagne, parce qu'au moins, il y a des gens. Et quand on voit dans les lavandées du plateau d'Albion ou de Valensole, il n'y a personne. Et donc, moi, je veux bien l'esthétisation des paysages, qui est le propre de nos sociétés. Encore une fois, c'est le plus qu'on demande au monde, c'est de nous faire plaisir. Parce que le travail est déporté ailleurs en général. Bon, il y a des paysans, mais on ne les voit pas trop, à la limite. Il faut bien qu'ils manifestent de temps en temps, ils versent du fumier devant les préfectures. Mais ils font aussi de beaux paysages. Ils font des prairies. Dans le Morvan, dans le Charolais, il y a des bœufs magnifiques, blancs, qui pestent dans les prés. C'est très beau. Mais la question, c'est que quel est le taux d'agriculteurs en France sur l'ensemble de la population? Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça peut-être que je suis, un peu ironique, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la nature avec les gens, et pas la nature sans les gens. Et donc, je pense qu'il faudrait faire, très franchement, des voyages comparés, plateau d'Albion, Côte du Nord, pour aller voir ce qui se passe entre la pourriture des élevages de porcs industriels, mais où il y a des gens, où il y a des villages et des bistrots dans les villages et des fest-noz, et puis ici, où les gens s'emmerdent tout l'hiver, et où il n'y a pas de culture, et que la culture, c'est quoi? C'est éventuellement descendre au supermarché à Manos de temps en temps. Bon, on n'a pas résolu cette histoire. Et dans l'esthétisation du monde où nous sommes, bon, on va se ressourcer. C'est un mot aussi qui est directement associé à l'idée de la nature, c'est la source. C'est là que se situent, encore une fois, les valeurs originelles. Donc, à la limite, il y a des voyagistes qui proposent de se balader sur l'Orénoque, d'aller voir peut-être des sociétés indiennes qui vont essayer de tirer parti le plus de fric possible des touristes, ou alors aller écouter le chant des baleines dans le détroit au sud de la Terre de Feu. C'est pitoyable. Pitoyable, parce que les raisons de vivre, si on ne les a pas là où on est, aller les chercher de cette manière-là. En plus, quand il s'agit de la terre de feu, et ce sont souvent des gens qui prétendent avoir une pensée écolo qui y vont, combien ça coûte en kérosène, quoi. Donc c'est une aberration totale. Donc pour ma part, je sais pas, j'ai une pensée peut-être aujourd'hui beaucoup plus politique de la relation au monde, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont maintenant sur la Terre et comment les plantes s'accordent à ça? Alors les plantes, c'est vrai, elles sont en train de recevoir une baffe pas possible. On parle de la 6e extinction générale et c'est probablement vrai, malheureusement. Et puis on ne sait pas ce que ça va produire.
Pourquoi dites-vous que c'est probablement vrai?
Parce que c'est pas sûr qu'on soit dans une grande extinction. C'est pas complètement évident.
Mais il y a quand même des signes.
Il y a des signes, mais il n'est pas sûr que ce soit le Permien ou la fin du Crétacé. C'est pas sûr que ce soit ça. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de signes avant-coureurs. Et le problème, c'est qu'on est dans une société qui connaît les signes avant de connaître les conséquences.
C'est-à-dire?
Oui, on sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. On sait que les océans s'acidifient. Bon, par exemple, j'ai un fils qui habite à Vancouver, à Vancouver de Vancouver. Il y a plus de poissons dans le détroit entre l'île de Vancouver et Vancouver à cause de l'acidification de la mer causée par des papeteries qui se trouvent au nord du détroit, des papeteries absolument gigantesques qui acidifient assez le milieu pour empêcher, par exemple, la naissance des œufs d'un certain nombre d'animaux marins. Ou en particulier les mollusques. Donc ça, c'est voilà, on sait très bien tout ça. L'histoire du plastique dans les océans, est terrifiante. Mais ça n'empêche que quand vous allez au supermarché, là maintenant, moi, Forcalquier de tout à l'heure, je vais acheter de la lessive sur laquelle on va me dire biodégradable à plus de 90%. Ça veut dire que sur 10 paquets, je vais en jeter un dans ma machine à laver et que après, ça va partir dans la rivière. Donc il n'y a pas d'honnêteté, il y a un mensonge total. Et que le mot biodégradable, il ne peut être employé que quand c'est à 100% biodégradable. Là, c'est toujours cette histoire de tranquillisant qui est employée parce que, à l'arrière-plan de tout ça, comme vous le savez très bien, il y a tous les enjeux financiers qui parrainent, qui gèrent, qui est plus que parrainent, qui tiennent les brides du monde de nos jours. Et qui ne veulent pas en rien entendre, sauf s'il y a du fric à gagner, comme fait E.ON avec les forêts du Sud, comme il y a du fric à gagner dans les points carbone que E.ON va gagner en brûlant du bois plutôt que du charbon à Gardanne, ils vont gagner des points, donc ils vont être écolos. Et ils vont exploiter, encore une fois, 850 000 tonnes de bois par an, avec une ponction prodigieuse entre les Cévennes et les Hautes-Alpes. Mais l'argument a été donné, a été fourni, c'est-à-dire, vous êtes quand même des écolos, puisque vous brûlez du renouvelable. Après, on ne s'interroge pas sur les à côté. Et le problème, c'est que il y a comme ça cette espèce de on fait avancer un peu comme une pom-pom girl, en tête de tous les mensonges, des espèces de pseudo-vérités qu'on ne fait que regarder qu'elles. Et ça, c'est insupportable. Alors dans les plantes, les plantes, elles sont dans la foule avec tous ces gens qui se poussent du coude, qui essaient d'être en avant. Elles essaient aussi d'avoir leur place. Mais quand elles se répandent à cause de nous, qu'elles font des invasives par exemple, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'elles viennent bouffer l'espace de nos espèces à nous, qu'elles vont violer nos fleurs sauvages, et qu'après, il va y avoir des populations métèques, et que ça va contribuer à la disparition des milieux. Jusqu'à nouvel ordre en Europe, moi, j'ai été sollicité pour participer à un groupe de travail sur les invasives en région méditerranéenne par le conservatoire botanique de Porquerolles. Et je leur ai répondu, d'accord, mais je veux qu'on parle en priorité du maïs et du pin noir, qui sont les deux invasives majeures. Le maïs, au niveau mondial, c'est la plante invasive majeure. En Chine, le maïs est devenu plus important que le riz. Il y a plus de production de riz. Le maïs, deuxième producteur mondial après les États-Unis. La Chine. Et le maïs, c'est la destruction de la terre. C'est-à-dire consommation d'eau, d'intrants, de pesticides, sans parler de les manipulations génétiques. Et puis le pin noir qu'on a cultivé, qui à un moment donné a été intéressant pour stabiliser l'érosion en montagne, qui est très important dans les Alpes du Sud, le pin noir s'étend partout, défait les milieux, efface complètement des zones d'une biodiversité extraordinaire. Par exemple, ici, la montagne de Lure, où il y avait des pelouses pastorales. Mais c'est toujours ce problème de changement de société. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de moutons, il y a les pins noirs, et les pins noirs détruisent un milieu qui était un milieu ouvert. Bon. Et on m'a répondu, ah mais monsieur, ce n'est pas dans notre propos de parler des plantes cultivées. Donc, moi, je refuse absolument ça. Qui est dans les stérelles que le mimosa est envahi des montagnes entières dans le Tanneron, d'accord, c'est dommage pour le maquis. C'est joli quand c'est en fleurs. Et puis, ça n'a pas l'air de s'étendre infiniment. Sauf quand on est quelque part, le mimosa, c'est vrai que l'arracher, c'est fini. C'est fini. Il y a une éternité de mimosa. On attendra pour le prochain âge glaciaire. Toute l'ambiguïté est là. C'est-à-dire, on veut un monde propre, joli, quelque part. Et pour qu'il se soit beau, joli, visitable, randonnable, quelque part, on accepte que ce soit pourri ailleurs. Et donc, on ne va pas regarder la Durance ni les cochons. On va aller dans la Vanoise ou le col de l'Arche ou dans l'Aubrac. L'Aubrac tellement joli avec ses vaches tellement jolies, tellement bien peignées, etc. Et qui en plus permettent, c'est vrai, la survie de pelouses pleines d'intérêts botaniques. Mais ce qui m'intéresse, pour ma part, mon évolution, c'est de sortir de cette obéissance-là, à cette ambivalence où l'on privilégie ce qui est de l'ordre de la... simplement du plaisir. Et puis de dire, non, je veux pas de ce plaisir-là. Pas de plaisir-là, parce que s'il est possible, c'est parce qu'on en oublie le reste. Et donc, tout à l'heure, vous avez parlé des vergers de la Durance, mais évidemment, quand je vais dans la Durance, je suis malheureux comme tout. En plus, 17 traitements dans la Durance sur les pommiers, interdiction de vendre le bois comme bois de feu à cause des risques à la combustion. Donc, voilà.
Par contre, les pommes, elles sont vendues...
Les pommes sont délicieuses. Les pommes sont délicieuses. Elles sont au-dessus de tout soupçon. Donc, on s'en fout. Elles sont vendues dans la grande distribution ou chez Aide. Le problème, c'est cultiver maintenant quoi ? Cultiver, c'est-à-dire protéger quoi ? C'est la conscience qu'il faut protéger. C'est la diversité de la conscience. La conscience, elle est laminée. Ce que vous avez dit tout à l'heure des vergers en prison, c'est pareil pour les êtres. Bien sûr, je ne suis pas le premier à le dire, encore une fois. Je ne fais que reprendre un discours qui devrait être entendu par tous. Et alors là-dedans, les plantes, oui, les plantes me concernent. Moi, je suis ému par les plantes. Je regarde les murs dans mon village avant qu'on ne passe l'herbicide au mois d'avril. Je regarde les plantes. Il y a un moment où je peux voir. J'ai vu comme ça, il y a 5-6 ans, un caprier que je n'avais jamais vu alors que je me baladais pendant des années dans ce village. J'ai vu un caprier. Je me dis, un caprier, c'est pas vrai, le seul caprier de Man. Mais l'année suivante, il avait été détruit par le Roundup. Je n'ai pas eu le temps de le voir en fleurs. Et donc, je regarde les murs, il y a une diversité magnifique, il y a des fougères, il y a de nombreuses de Vénus, tout un tas de petites choses, de rien, mais qui sont aussi importantes qu'à mes yeux, parce qu'elles se sont faufilées dans les contingences humaines. Ce qui n'est pas le cas de la forêt tropicale. On n'a pas ici des aras bleus dans le village, ni des fromagers. On a la flore d'ici, mais la biodiversité, c'est ça. C'est pas simplement, c'est pas les hotspots, c'est pas ce qui existe simplement en Amazonie ou en Indonésie, et encore en Indonésie, maintenant c'est le palmier à huile. Moi, ce qui m'intéresse de la nature, c'est qu'elle soit partout et que les gens soient avec elle. Voilà, c'est ma rhétorique, si pour autant que c'en soit une, c'est que il y a une connivence. Ce qu'il faut établir, comme il n'y a plus, comment dire, d'usage aveugle, mais que l'aveuglement se perpétue, il faut simplement réinventer une connivence avec de l'usage, mais une connivence intelligente. Et là, je suis quelque peu pessimiste parce que le taux d'intelligence au mètre carré est faible, et surtout à l'hectare dans les forêts.
Thank you.
cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la réécouter ou la télécharger sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez une bibliographie succincte des ouvrages de Pierre Liotagui et notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon, mixage, Philippe Bredin, réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous. Thank you.